Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. C'est le moment de se faire un 90 minutes d'accès libre. Et aujourd'hui, on se pose la question, les programmes d'enfants handicapés ont-ils des critères trop restreints? Donc, vous répondez avec nous à la question directement sur notre page ou sur la page de l'émission Accès libre en pianotant le canal m.vuzevoix.com. Enfin, peut-être que vous êtes déjà là, mais je vous le dis au cas où vous souhaitez, vous êtes sur le câble. En table ronde, évidemment, on rencontre deux femmes, parents d'enfants lourdement handicapés, mais qui sont adultes. Marie-France Baudry, qui est fondatrice de l'organisme Parents pour toujours, et aussi Caroline Bernacci, qui vit cette situation tout autant que Mme Baudry et des tonnes, souvent, avouons-le, de femmes au Québec. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que elles vivent une injustice puisqu'après que leur enfant ait 18 ans, malgré tout le soutien qu'elles doivent donner, elles ne reçoivent plus rien du gouvernement ou à peu près. En fin d'émission, avec Aube Savard, on en apprend plus sur les destinations hivernales accessibles. On demande aussi à Mira, c'est quoi un chien d'assistance? On consulte Sonia Boucher sur la citoyenneté sexuelle. Et dans un instant, Céline Métivier, agente de recherche du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome, nous présente une étude sur les accommodements pour motifs de handicap dans le milieu communautaire. Tout ça sur Canal M, la radio de Vuzevoix. On parle souvent de la place des personnes en situation de handicap, en politique, dans l'espace public, au travail, mais il y a un lieu qui est pourtant très important, qui est celui, du milieu communautaire. Il faut se poser la question de l'inclusion ou de la possibilité pour le milieu communautaire d'être inclusif. L'idée est tellement d'importance que le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome, le RQAK, a fait appel à l'IRIS, l'Institut de recherche de gauche, qu'on connaît bien, pour faire une enquête sur la question. Céline Métivier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Ben, bravo pour cette étude. Hein, c'est une initiative de votre part. Mm-hmm. Mais les gens l'entendent, il faudrait le préciser d'entrée de jeu. C'est quoi le milieu communautaire autonome? Parce que c'est ça que vous représentez particulièrement.
Oui, on représente environ 4000 organismes à travers le Québec qui sont répartis dans 57 regroupements, mm-hmm. qui visent la transformation sociale, qui ne visent pas nécessairement juste à offrir des services directs, mais aussi à changer la société pour qu'elle soit le mieux possible.
Mmh. Ben c'est une noble cause, puis c'est très précis, en fait. Le milieu communautaire autonome ne renonce pas devant ses valeurs. Il y a des valeurs particulières. Mais donc, il y a plein de lieux à travers le Québec où les gens peuvent s'engager et peut-être s'engager dans la transformation sociale aussi. Mmh. Et donc, vous êtes posé la question, où sont les personnes handicapées? Comment elles peuvent s'impliquer là-dedans? C'est ce que je comprends bien?
Oui, bien, ce qu'on s'est demandé, c'est, on s'est dit, dans tous ces organismes-là, il y a des assemblées générales, mm-hmm. il y a des activités sociales, il y a des conseils d'administration, des rencontres de comités, etc. Est-ce que dans les organismes, on favorise la participation des personnes handicapées dans ces organismes-là, sachant à quel point le financement n'est pas très élevé?
Oui, puis il faut rappeler que souvent, c'est les enfants pauvres, là, soyons mm-hmm. honnêtes, les organismes de défense de droits, par exemple, qui sont avec vous, les organismes communautaires autonomes, c'est pas eux qui ont le pactole. Là.
Non, c'est ça. Mm. Il y en a qui vivent avec très, très peu de moyens. Mm. Donc, on a pensé que ça serait des accommodements pour faciliter la participation des personnes handicapées seraient mis de côté, faute de financement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va demander au gouvernement, on a entrepris des démarches il y a plusieurs années, là, ça mm-hmm. fait depuis à peu près 2012, on a entrepris des démarches pour, en se disant, on aurait besoin d'un fonds pour pouvoir soutenir ça. Mais ce qu'on s'est fait répondre, c'est que vous n'avez pas d'études là-dessus. C'est des intuitions que vous avez.
Ah oui, voilà. Ouais. Donc, vous aviez besoin de montrer des chiffres pour aller chercher, en fait, une revendication derrière. Là. Vous espérez que ces montants-là soient peut-être ajoutés là, pour qu'on puisse vraiment être des milieux, faire des milieux inclusifs.
Oui, tout à fait. Puis on a eu l'excellente collaboration. On a travaillé vraiment étroitement avec la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées, et la CRIF, l'Alliance québécoise des regroupements pour l'intégration des personnes handicapées. Donc, ce sont deux de nos membres. Mm-hmm. Donc, on a travaillé...
Puis soyons honnêtes, ça couvre pas mal. C'est pas mal les deux regroupements, si vous voulez, joindre tous les groupes de personnes en situation de handicap au Québec,
ouais,
entre autres.
Oui, ben, pas mal, en tout cas. Ouais. Donc, on s'est associé avec eux autres, puis on a fait une demande de financement qui a été supportée par le secrétariat à l'Action communautaire autonome et aux initiatives sociales, mm-hmm. qui nous a permis de faire la recherche, donc, d'embaucher l'IRIS, ouais. l'Institut de recherche socio-économique, pour faire un sondage
okay.
auprès de tous les organismes, pas juste les organismes qui représentent des personnes handicapées, mais auprès de... Ils ont fait un sondage, ils ont envoyé le sondage auprès de 1000 groupes.
Bien, c'est logique. Si on veut faire quelque chose d'inclusif, on se borne pas aux organismes qui travaillent seulement ou précisément avec les personnes handicapées.
Oui, c'est sûr,
bon.
C'est sûr.
On comprend la démarche. Donc, vous faites appel à l'IRIS pour faire ce sondage-là auprès de tous ces organismes. Et là, il n'y a pas si longtemps, en fait, le 4 décembre dernier, vous publiez des résultats. Donc, en gros, et puis on ne va pas passer l'heure là-dessus, mais ce serait quoi les deux grands ou les grands constats que vous faites avec l'IRIS?
Il y a beaucoup de constats, mais je dirais qu'un des constats, c'est que, puis on n'a pas été surpris, la moitié des organismes d'action communautaire autonome n'offrent pas d'accommodement.
Ah oui.
Donc, c'est plus de la moitié. Ça veut dire qu'il y en a quand même la moitié qui en offre. Quand même pas si pire.
Saluons ça d'abord, oui.
aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a souvent pas d'accommodement qui est donné mm-hmm. pour différentes raisons. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les raisons sont le manque d'accès à des ressources.
Oui.
Vraiment, ça, c'est près de 50 %. C'est pas prévu.
Voilà, c'est ça. Donc, la personne en situation de handicap arrive, puis là, on se rend compte qu'on n'y a pas pensé.
On n'y a pas pensé. Mm-hmm. On n'a pas... en tout cas, différents accommodements,
ouais.
là, je les nommerai pas
bon,
tous.
On pourrait les nommer après, mais donc, ça c'est les constats.
Et le manque de ressources aussi monétaires
oui.
qui revient aussi.
Ben, on peut même dire là, qu'en moyenne, les organismes qui représentent les personnes en situation de handicap dépensent, attention, 12 366 $ annuellement pour effectuer ouais. ces accommodements-là, alors que les autres organismes, c'est 1 312 annuellement. Mais c'est quand même beaucoup d'argent déployé pour des budgets. Des fois, ça peut être 50, ça peut être 75 000 $ Tu sais, ça ne donne pas une grosse marge de manœuvre là, pour un organisme. Bon. Et puis, je veux juste préciser, les types d'accommodements, là, c'est autant l'interprétariat, le transport, l'accompagnement, puis l'accessibilité physique des lieux.
Oui, aussi.
Et ça, c'est compliqué. Hein?
Oui, c'est ça.
Bon. Alors, si je comprends bien, cette étude-là vient appuyer le fait que les organismes qui veulent être inclusifs n'ont pas le soutien du gouvernement. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça comme constat qu'on pourrait avoir?
Ils n'ont pas de soutien particulier.
OK.
On se fait dire que, bon, les organismes qui représentent des personnes handicapées, c'est à même leur budget.
Oui.
Donc, puis les autres, ben non, ils n'ont rien. Mm-hmm. Donc, ils doivent le prendre sur leur propre budget, comme tout le monde.
Oui.
Donc, ça fait que ce qu'on a vu, c'est que dans l'étude, il manque au moins 2 millions à ajouter. Là.
Okay.
Il y a déjà 13 millions qui est dépensé, là, mm-hmm. selon les estimations de l'IRIS, mais il manquerait 2 millions. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça prendrait, pour que tout le monde soit à égalité, ça prendrait au moins une enveloppe de 15 millions mm-hmm. qu'on pourrait aller chercher, autant pour les organismes de personnes handicapées que les autres.
Bien sûr.
Pour pouvoir faciliter la vie, pour que, ben, pas juste faciliter, que les personnes en situation de handicap puissent participer.
Ben, c'est important que vous parliez de participation sociale. Je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent qu'en 86, le gouvernement avait dit par décret qu'il fallait compenser les déficiences. Ça voulait dire que dépenser pour les accommodements dont vous parlez, là, ça ne devrait pas être considéré comme un budget normal. Il faudrait en voir un. Mais bon, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas complet. Hein? Il faut quelques années plus tard remédier à la situation.
Quelques.
Puis donc, deux choses. Comment on se rend, comment on accède à la recherche, Céline Métivier?
On accède sur notre site Internet, mm-hmm. www.rq-aca.org.
Très bien. Puis...
Et aussi... Oui. Sur le site de l'IRIS,
oui.
dans leur rapport de recherche, donc iris-recherche.qc.ca.
Et j'ai même un truc pour les gens qui nous écoutent, parce que parfois on passe par Google. Moi, je l'ai essayé. Ce qui fonctionne bien, c'est l'accès à la vie associative pour les personnes en situation de handicap. On tape ça, puis on trouve d'abord le lien de l'IRIS, ensuite le lien de l'RQAK. Céline Métivier, agent de recherche au réseau québécois de l'Action communautaire autonome. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Le ciel est trop noir, qu'une grande toile voile les étoiles. Doucement mon corps s'apaise et s'endort pendant que je rêve au jour qui se lève.
Question de la semaine, les programmes de soutien aux parents d'enfants handicapés ont-ils des critères trop restreints?
Il faut répondre à la question. N'oubliez pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à Canal M, la radio de Vuzévoix, ou même sur le site internet canalm.vuzévoix.com. Mais on se retourne quelques instants face au chien Mira. Hein, vous les aimez, on les aime, que d'admiration et d'affection spontanée on a pour ces chiens. On a envie de les flatter, de leur serrer la patte. Mais il faut se rappeler qu'ils risquent de le faire parce qu'ils sont en plein travail et à plus forte raison quand ils ont une harnais. Alors, on les connaît un peu, mais saviez-vous que ces chiens peuvent apporter aux personnes toutes sortes d'assistances? Et c'est pour ça qu'on rejoint Nicolas Saint-Pierre, directeur général de la Fondation Mira, pour comprendre un peu mieux tout ça. Bonjour, M. Saint-Pierre.
Bonjour.
Bonjour, content que vous soyez avec nous.
Ben moi aussi, vraiment.
Donc, vous le savez, on parle souvent du chien guide, mais je vous demanderais d'emblée, combien existe-t-il de catégories de chiens dressés pour aider les personnes en situation de handicap au Québec?
Au Québec, je dirais que 4 catégories. En fait, ben, le chien d'assistance, là, c'était une nouvelle affaire qui est apparue il y a à peu près une vingtaine d'années, 15 ans à peu près.
OK.
Officiellement, puis bon, dans ces chiens d'assistance-là, il y a plein de sous-catégories. Les chiens, bon, au début, quand ça a commencé, c'était des chiens qui aidaient à la traction au fauteuil roulant manuel.
Mm-hmm. Donc, pour que la personne se déplace quand elle a un peu de difficulté.
Ouais. C'est ça, que le chien donne un coup de main pour quand c'est glissant, ou bien que tu disons qu'il y a des faux plats ou des trucs comme ça. Puis après ça, ben, le rapport d'objet. Puis après ça, il a commencé à avoir des chiens aussi qu'on utilise pour les chiens de l'aide à la marche, que c'est des gens qui ont des maladies de dégénérescence, la sclérose en plaques.
Ouais.
Puis ces gens-là, ils ont des journées qui sont dans le fauteuil, mais il y a des journées qui sont capables de marcher. Puis ces chiens-là les aident à garder un équilibre. Ah. Puis ce que ça fait, c'est que ça les aide à marcher. Puis en même temps, ce que ça fait, c'est que ça les tient plus en forme. Donc, ça repousse un peu la date où est-ce qu'ils tombent en fauteuil roulant de façon permanente.
Donc, c'est pas juste l'assistance.
Pour les enfants TSA aussi.
OK. Donc pour le préciser, des chiens pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, on appelle ça plus ou moins un chien d'apprentissage, c'est ça?
Bien, ça a découlé de ces chiens d'assistance-là, c'est-à-dire des chiens de travail qui ont il y a 20 ans, on ne savait pas ce que les chiens allaient faire pour ces enfants-là. Oui. C'était juste des parents qui étaient en détresse, puis la maladie, ce truc-là qui vient d'apparaître depuis 20 ans, mais que ça fait longtemps, mais qu'on comprend beaucoup mieux depuis 10 ans, certainement, est arrivé. Et puis bon, les chiens, on voyait des effets certains sur les enfants, sur la cellule familiale, mais on n'était pas vraiment capable de l'expliquer. Là, on, tranquillement, avec l'expérience puis les recherches qui ont été faites, on s'est aperçu que les chiens amenaient une stabilité, une espèce d'attachement à la réalité qui calme les crises, aide au sommeil, descend le niveau de stress familial. Fait que ça donne un coup de main à ces familles-là qui en ont plein les bras, là.
Et faut le dire, ces chiens-là n'ont pas toutes la même reconnaissance, non seulement par le gouvernement, parce qu'il y a des programmes qui existent pour les chiens guides et les chiens d'assistance, mais aussi par le grand public. Hein? C'est pas tout le monde qui sait comment on fait pour distinguer ces chiens-là.
Mais maintenant, c'est assez simple parce que quand même, le public est rendu habitué d'avoir des chiens de travail. Puis bon, quand tu vois un chien avec un harnais qui n'est pas comme ce que tu trouves chez Mondou ou bien dans un pet shop autour de chez vous, c'est un harnais en cuir, que le mot Mira dessus, ou bien c'est souvent des harnais vraiment que tu vois vraiment que c'est des harnais professionnels. Mais c'est sûr que le chien, c'est un chien qui aide à quelque chose.
Voilà.
Souvent, c'est indiqué sur les harnais, mais comme les chiens guides, évidemment, on est vraiment, vraiment, vraiment habitué aux harnais de chien guide. Mais sinon, les harnais, bon, pour les chiens d'assistance ou les chiens pour les enfants TSA, ben c'est souvent des harnais qui sont plus gros, mais que tu vois très, très bien que c'est un chien de travail, là. C'est pas un harnais juste
pour être
faire
cute.
De la marche dans un parc, là.
On comprend bien. Bon, alors j'espère que public, vous comprenez, il faut pas les toucher, ces chiens-là, ils sont en plein travail. Puis ça se peut qu'ils aident à plus que seulement voir quand on est une personne aveugle, par exemple.
Absolument.
Voilà,
absolument.
Ceci est posé. J'ajouterais autre chose, Nicolas Saint-Pierre, c'est quoi les droits et obligations de manière générale face à ces chiens-là? Qu'on soit un commerçant ou une personne dans la vie, c'est quoi les droits en lien avec ça?
Les chiens, ils sont reconnus comme un aide thérapeutique. C'est-à-dire qu'autant un chien guide qu'un chien d'assistance, ils sont reconnus comme un aide. Donc, par les chartes des droits de la liberté, ces chiens-là sont supposés être acceptés partout.
Mm-hmm.
Où est-ce que les gens peuvent marcher avec leurs chiens, magasins, commerçants, hôpitaux, bibliothèques, partout. Même que les parents, même si l'enfant n'est pas là, les parents sont responsables du chien. Les parents ont le droit d'amener leur chien au travail et tous les endroits publics qui viennent avec pour garder justement le chien dans un état d'esprit de travail. Donc,
c'est important ce que vous dites. C'est pas seulement en présence
oui,
de la personne aidée, là.
Absolument. Surtout pour les chiens TSA. C'est sûr que quelqu'un qui a son chien d'assistance qui est en fauteuil roulant, c'est évident. Un chien guide, c'est évident. Mais maintenant, il y a des parents qui se promènent avec ces chiens-là. Mm-hmm. Même qu'il y a des parents qui se promènent, qui amènent les chiens au travail pour pas les laisser à la maison, justement pour les garder dans un phénomène d'état de travail.
OK.
Fait que c'est ça le gros du... Le gros de la reconnaissance.
Bien, c'est important que vous le dites. Et surtout, moi, je rappellerai quelque chose d'encore plus clair. À chaque fois que ça s'est ramassé devant les tribunaux, les personnes qui avaient les chiens ont toujours gagné. Ou à peu près.
Absolument.
Donc,
on
rajoute une couche, là. Je pense que c'est clair pour tout le monde qui nous entend. Il y a beaucoup de choses à savoir sur ces chiens-là. C'est vraiment impressionnant. Nommez des choses, vous en avez parlé un peu, mais d'autres choses que les chiens d'assistance peuvent faire. Puis les chiens d'assistance, on rappelle, là, c'est pas nécessairement un chien guide, donc ça peut être une personne qui présente une limitation fonctionnelle, une déficience motrice quelconque, là.
Ben, il y a plein de trucs. Les chiens font les rapports d'objets. Il y a plein de sortes de rapports d'objets. C'est le principe qu'un chien prend quelque chose dans sa gueule, puis quand il a compris ça, ben il peut... Il peut prendre, ben justement, aller chercher soit des clés ou soit de l'argent ou peut-être aider la personne qui est quadriplégique à enlever son manteau, prendre les manches, ouvrir des portes, fermer des portes, ouvrir des portes automatiques. C'est toutes des petites habiletés qu'on met au chien pour qu'on on donne un coup de main à la personne. Parce
ben
que
oui.
C'est pas toutes les gens qui ont besoin des mêmes fonctions pour les chiens, donc nous autres, en classe, souvent, quand ces gens-là ils viennent, mais là, on personnalise un petit peu plus les chiens pour les besoins des personnes. Fait que c'est sûr que le chien guide, c'est bien évident. Sa job, c'est d'éviter les obstacles, d'arrêter au coin de rue tous les changements de niveau, traversant en ligne droite, puis tout ça. Sinon, les chiens TSA, c'est des chiens qui sont fondamentalement gentils, qui ont une obéissance de base, qui sont faciles à manier. Pour pas que ça soit quelque chose de difficile pour les enfants et les parents à avoir comme chien. Sinon, après ça, on a les chiens qui sont en centre de réadaptation, qui sont avec des physios.
Okay.
C'est des chiens qui sont pour justement donner un coup de main aux physiothérapeutes à faire de la réadaptation avec certaines clientèles, que ça aide pour justement aider à la marche. Les gens qui font des anévrisses au cerveau, qui réapprennent à marcher, c'est vraiment une façon de les aider à recommencer à marcher, puis une super grosse recherche qui a été faite par une physiothérapeute de Sherbrooke qui a vraiment montré les bienfaits du chien de marche au niveau d'un centre de réadaptation.
C'est
nos chiens avec
c'est impressionnant.
Le corps policier aussi.
Même avec les corps policiers. Donc, c'est impressionnant tout le spectre que ces chiens peuvent occuper. Donc,
ben,
Nicolas,
c'est Pierre... Je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ouverture d'esprit que les gens ont maintenant avec qu'est-ce que les chiens peuvent nous donner un coup de main.
Oui.
Fait que c'est ça qui, tranquillement, les mentalités évoluent. Fait que c'est là qu'on voit qu'on peut attribuer, on peut donner de l'aide avec les chiens de façon différente depuis une dizaine d'années.
Et donc, merci beaucoup, Nicolas Saint-Pierre et Amira, d'avoir permis à tant de familles, tant de personnes de profiter de ces chiens-là. Rappelons qu'on peut avoir plus d'informations sur mira.ca/fr et pour en savoir plus non seulement sur les chiens disponibles, mais peut-être pour vous soutenir aussi, pourquoi pas. Alors, merci beaucoup, Nicolas Saint-Pierre.
Merci beaucoup à vous. Joyeuse fête.
Joyeuse fête.
Salut.
La question ensemble.
Question de la semaine. Les programmes de soutien aux parents d'enfants handicapés ont-ils des critères trop restreints?
N'hésitez pas à répondre sur toutes nos plateformes, que ce soit sur canalm.vusezvoix.com ou sur Facebook. Évidemment, la question des critères pour des programmes, c'est important, mais il y a un autre concept qui nous intrigue et dont on va en savoir plus grâce aux soins de notre sexologue à domicile, Sonia Boucher, c'est-à-dire la citoyenneté sexuelle. Bonjour Sonia Boucher.
Bonjour Benoît, ça va bien?
Oui, ça va bien, vous aussi donc.
Oui, merci beaucoup.
Et la citoyenneté sexuelle, c'est intriguant comme concept. C'est logique qu'on demande à une spécialiste des droits sexuels de nous en parler. Et donc, qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est vraiment collé sur le concept de citoyenneté à la base.
Mm-hmm.
Donc, d'une part, on parle de droit, d'autre part, on parle de responsabilité. Quand on applique le concept à la sexualité, c'est-à-dire quelles sont nos responsabilités au niveau socio-sexuel, mais surtout, quels sont nos droits?
Ah, on parle évidemment des droits des personnes. Puis, en l'occurrence, des personnes handicapées ou âgées, dans le cas qui nous préoccupe, disons.
Oui, plus spécifiquement, aujourd'hui, on parle des droits des personnes en situation de handicap.
Mm-hmm.
Donc, quels sont nos droits vis-à-vis de la sexualité qu'on demeure en centre de soins, mais aussi dans une résidence privée, quand on est à domicile?
Oui.
Est-ce qu'on a des droits spécifiques et qu'est-ce que ça veut dire avoir des droits citoyens sexuels?
Mm-hmm.
Donc, c'est de développer ce concept-là qui nous permet de briser surtout certains tabous.
Oui.
Les représentations sociales de la sexualité dite handicapée, comme s'il y avait une sexualité spécifiquement pour les personnes en situation de handicap et une pour les autres.
Mmh.
Donc, d'en parler, ça nous permet de briser ces tabous-là et de dire qu'à titre de citoyen à part entière, on a aussi des droits sexuels.
Et donc, c'est important, vous le dites, là, c'est la citoyenneté sexuelle, sa première fonction, c'est de détabouiser. Hey, ça, c'est le fun à dire. Détabouiser. Bon, la première chose. Voilà, c'est le fun. Tout simplement. Comment on outille, comment on arrive à faire ce changement-là dans le but que ça se détabouise?
C'est vraiment drôle à entendre.
Oui.
Donc, le premier pas à faire, c'est un peu comme pour valoriser ou favoriser le développement de la citoyenneté d'une personne, c'est-à-dire la participation sociale, impliquer les personnes.
Oui.
Selon vous, quels sont vos droits? Pour ça, il faut savoir quels sont vos besoins. Donc, le plus possible, permettre aux personnes de participer dans tout ce qui est trait aux responsabilités, aux droits sexuels, pour qu'ils puissent s'approprier leur sentiment de citoyenneté aussi au niveau de la sexualité.
Mm-hmm. Donc, voilà, c'est complet, puis ça implique la sexualité. En terminant, sachant que Les droits des personnes handicapées sont souvent bafoués, là. Quelles seraient les autres pistes de solution là, pour développer la citoyenneté sexuelle?
Bien, élaborer un discours à partir des droits, c'est toujours une bonne façon de détabouiser, okay. Mais aussi de s'approprier, qu'on respecte nos droits, qu'on respecte notre dignité.
Oui, donc comme personne...
Passer par le droit social, oui.
OK, donc comme personne, faut accepter qu'on a des droits, faut pas se voir comme quelqu'un qui serait amputé de sa sexualité.
Non, mais il faut aussi penser à se responsabiliser, c'est-à-dire connaître nos droits et nos responsabilités. Ouais. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'harceler une personne pour avoir droit à la sexualité, pas plus qu'une autre? Donc,
c'est ça.
C'est les deux pas à couvrir, au même titre qu'un citoyen à part entière, une personne socialement impliquée.
Et donc, si on est en contact, par exemple, avec du personnel, etc., il ne s'agit pas de les voir comme des personnes qui pourraient... agir sur la sexualité, là. Il faut...
Non, qui pourrait potentiellement être un partenaire.
C'est
non.
Ça.
Il y a une différence, donc, entre l'accompagnement à la sexualité et le soutien. Mais ça, on pourra en reparler dans une autre chronique. Si
ben voilà, on vient de se donner notre thème, Sonia Boucher, sexologue à domicile. Merci beaucoup de votre intervention si éclairante, comme d'habitude.
Oui, toujours un grand plaisir, comme d'habitude. Merci beaucoup, Benoît.
À bientôt, Sonia. Bonne journée.
Bye-bye.
Écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbé par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant, laissant le vent tout faire. Elles, dans le suave, la faiblesse des hommes, elles savent la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir la fortune à quoi nos vies se résument. Pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas qu'on garde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfare bleu, blanc, orange, vert de rouge, vert de rouge. L'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles, pas fières, sur leurs escabeaux. peau en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave, la faiblesse des hommes, elle somme, classe, seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Question de la semaine, les programmes de soutien aux parents d'enfants handicapés ont-ils des critères trop restreints?
On vous encourage à répondre à la question via notre site sur canalm.vusevoix.com. Donc voilà les programmes qui s'adressent à tous les parents, c'est ça qu'on doit dire, tous les parents qui vivent, qui sont souvent proches aidants des enfants handicapés, peu importe l'âge. Alors, c'est ça le sens, l'étendue de la question. Et pour mieux comprendre cette situation, aller voir ce que c'est dans le vécu, mais aussi quel genre de revendications ces parents-là ont, on reçoit deux femmes, deux mères de Parents pour toujours. Marie-France Baudry, qui est fondatrice de Parents pour toujours. Bonjour Marie-France.
Bonjour Monsieur Recep.
Bonjour Caroline Bernatchez, qui est aussi maman et qui s'implique aussi à Parents pour toujours. Bonjour Caroline.
Bonjour Monsieur Recep.
Bon, content que vous soyez avec nous. L'une est à Gatineau, l'autre, vous êtes où Caroline?
Terrebonne.
À Terrebonne. Bon, alors vous prêtez au jeu pour expliquer un peu votre situation, en fait, pour qu'on comprenne, vous êtes tous les deux des mères qui vous battez tous les jours, pas seulement au nom de l'amour, là, mais pour répondre aux besoins matériels, aux besoins en service de vos enfants ou même pour subsister. C'est ça dont on parle.
Absolument, oui, oui, oui.
Et je commencerai avec vous peut-être, Marie-France Baudry, qui avait fondé l'organisme Parents pour toujours. Vous êtes maman de André, qui a 25 ans. En fait, parlez-nous de votre fils. Quels sont ses besoins? Comment vous vivez ça au quotidien?
Ah, ben au quotidien, André, il est né avec spina bifida et hydrocéphalie et plusieurs malformations cardiaques. Il a un retard de développement, il ne parle pas, parle par un langage gestuel, se déplace en fauteuil roulant. Donc, André, ses besoins à tous les jours. André doit être cathétérisé à toutes les 4 heures.
Oui.
Il faut également lui injecter une médication à l'intérieur de la vessie le matin et le soir. Faut aussi connaître André, hein, surveiller son état général aussi tout au long de la journée.
Oui, parce qu'il ne s'exprime pas nécessairement toujours avec des mots, il s'exprime avec des gestes, donc il faut être attentif aux besoins qui surviennent, là. Ou même aux douleurs
exactement.
Peut-être. Ouais.
Oui, exactement. Les douleurs, les malaises, il faut vraiment être attentif à tout et savoir là, s'il y a quelque chose, un petit malaise, quelque chose, hein, qu'est-ce qui se cache derrière ça, là.
Voilà. Et votre fils a quand même vécu beaucoup de chirurgies. En fait, on dit qu'il y en a eu 11, dont certaines à cœur ouvert. Donc, il a été souvent éprouvé là, du point de vue clinique, là.
Très souvent, depuis la naissance, là, oui, puis c'est pas terminé malheureusement. Là. On sait qu'il y a une autre chirurgie cardiaque qui est à venir dans un futur proche. Donc, c'est vraiment, oui, beaucoup, beaucoup d'hospitalisations. Beaucoup. L'hôpital est devenu notre deuxième maison.
Oui, c'est ça. J'imagine que les gens vous connaissent, etc. Mais d'ailleurs, vous êtes très connu parce que vous avez pas seulement vécu ça individuellement, vous cherchez avec d'autres mères, on va le dire, le plus souvent c'est des mères, hein, qu'on s'entende là-dessus, là. Ça peut être des parents, là, mais c'est souvent des mères, avec d'autres mères, comment faire améliorer la situation?
Oui, exactement. Bon. Exactement. C'est pour ça que j'ai fondé Parents pour toujours.
On entend bien. Il y a aussi avec vous Caroline Bernacchi, qui est, elle, maman de Félix, qui est majeure depuis très peu de temps, depuis le 8 novembre dernier, c'est bien ça?
Oui.
Puis ce qui se passe au quotidien avec Félix, ça ressemble un peu à ce que la maman d'André, Marie-France Baudry, nous a expliqué?
Bien, c'est dans le même ordre, mais c'est un peu différent. Mon fils, il est non autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne. Il a besoin de quelqu'un pour le faire manger, pour l'habiller. Il est incontinent, il met pas de poids sur ses jambes, donc faut le transférer avec des lèvres-personnes. C'est un cas lourd de CHLD, puis une déficience intellectuelle moyenne sévère, donc il comprend pas vraiment toutes les consignes.
Ouais.
Il va des fois communiquer avec des pictogrammes, des fois avec des signes du langage signé adapté pour sa condition. Donc, faut être là à tous les instants. Il peut pas rester 5 minutes seul là, sans surveillance. Ça peut être dangereux pour sa sécurité.
OK. Donc, comme Marie-France Baudry, bon, vous aviez une carrière, mais vous êtes une proche aidante là, de tous les instants.
Depuis 18 ans.
Oui. Bon.
Donc, moi, j'ai une formation, j'ai un baccalauréat en administration, une formation, j'étais courtière en valeur mobilière dans une grande firme du centre-ville de Montréal. J'ai jamais pu reprendre ma carrière.
Oui, mais ça sort tous les jours, c'est très demandant. Mais le pire, c'est qu'on... On comprend cette situation-là. On le sait que les charges, ce que ça implique, ce que ça prend comme place dans votre vie, c'est important. Mais la question qui tue, comment vous faites pour arriver, Mesdames Baudry, Mesdames Bernacchi?
Pour ma part, c'est très difficile. Ça fait plusieurs années que, justement, j'ai dû tirer un trait là, sur ma carrière. Donc, je suis à la maison avec André. Au début, l'assurance chômage, mais ensuite, il y a quoi? Il reste l'aide sociale. Alors, on se débrouille comme on peut avec l'aide sociale. On fait des miracles à tous les mois pour essayer de tout payer, là. Puis, on est souvent en retard dans les factures, mais on survit, on vit pas, c'est de la survie au quotidien. Et puis ça amène un stress énorme qui s'ajoute au stress qui est déjà présent à cause de l'état de santé là, de nos enfants. Donc c'est très difficile.
Et puis ce qu'on entend aussi, c'est que contrairement à s'ils étaient en établissement ou plutôt en installation, il y aurait de l'argent, là. Les personnes pour les héberger auraient de l'argent. Vous n'en avez pas. Un peu comme le disaient plus tôt les parents jusqu'au bout là, qui ont des enfants en bas âge.
Ah ouais, moi, je le vis. Je le vis parce que mon fils, il a eu la mesure exceptionnelle.
Oui, vous l'avez obtenue.
Moi, je l'ai obtenu parce que mon fils, c'est un cas de polyhandicapé lourd, sévère, qui correspondait à tous les critères demandés. Mais là, je l'ai eu, puis on me l'a enlevé tout de suite au mois de novembre quand il a eu 18 ans. Donc, on commençait à peut-être pouvoir souffler et régler des factures d'endettement. Et on vient de se le faire enlever, et d'autant plus que tout est parti, toutes les prestations pour enfants handicapés, tout ça. Donc, on se retrouve avec un trou là, de plus de 1000 $ par mois qui ne rentre pas, malgré que maintenant, Félix a le droit à la solidarité sociale. On a plus que 1000 $ qui ne rentrent pas là, par mois.
Et puis, rappelons que vous êtes dans une maison que vous avez réussi à faire adapter à Terrebonne. Mais une maison, vous avez travaillé notamment dans le milieu bancaire ou dans le milieu des finances, là, ça prend une hypothèque là, pour la payer.
Moi, j'ai utilisé mon équité pour pouvoir rester à la maison avec mon enfant pendant qu'il n'y en avait pas là, de supplément pour enfants exceptionnellement. Tout ça. Et maintenant que c'est enlevé, là, on retombe dans une situation précaire et j'ai pas envie de perdre ma maison qui est tout adaptée parce que dans le fond, il y a une partie qui est adaptée par le gouvernement aussi.
Ben oui, voilà, il y a des fonds publics qui sont là. Il y a aussi vos propres moyens. Là. Vous avez dû débourser vous aussi.
Ah, absolument. Oui, parce que tout ce qui a été fait ici, ça n'a pas été fait. C'est fait en grosse partie à mes frais.
Ouais.
Et c'est complètement adapté pour un enfant qui a le handicap de mon fils, accessibilité, lève personne et tout et tout. Mm-hmm. Donc, partir d'ici pour s'en aller en logement, c'est pas une solution, là.
Donc, Marie-France Baudry, Caroline Bernatché, on revient après cet instant musical. On va parler encore plus clairement de la bataille que vous avez comme parents pour toujours.
Question de la semaine, les programmes de soutien aux parents d'enfants handicapés ont-ils des critères trop restreints?
C'est une question à se poser. On a parlé au cours de la rencontre qu'on a déjà commencé avec Marie-France Baudry et Caroline Bernatché, des parents jusqu'au bout, ces parents d'enfants en situation de handicap, c'est-à-dire qui ont moins de 18 ans. Et cette bataille-là qu'ils ont menée pendant 2 ans environ a fini par permettre qu'il y ait un petit programme avec beaucoup de critères, mais évidemment qui ne s'applique pas à la situation, qui s'applique à la situation, mais qui n'est pas offert à Marie-France Baudry et Caroline Bernatché. Marie-France Baudry, vous êtes fondatrice de Parents pour toujours. On comprend la différence dans l'expression. Pourquoi vous avez décidé de fonder Parents pour toujours?
Moi, je suis en contact avec Marilyn Picard de Parents jusqu'au bout depuis très longtemps, depuis même avant que Parents jusqu'au bout soit fondé. Mm-hmm. J'ai regardé ces mamans-là mener leur combat là, pendant des mois et des mois. Quand il y a un programme qui a été annoncé, j'espérais vraiment que ça s'appliquerait à tout le monde, peu oui. importe l'âge. Mais malheureusement, non. En plus que le programme a été tricoté tellement serré qu'il y a beaucoup de familles qui se qualifient malheureusement pas. Les plus de 18 ans sont totalement exclus. Donc, je me suis dit, bon, ben on va faire quelque chose. J'ai fondé Parents pour toujours pour cette raison-là. Mm-hmm. Parce que c'est pas parce que nos enfants ont 18 ans et plus qu'on les aime pas. C'est pas parce qu'ils ont 18 ans et plus qu'on va les placer, comme on dit. Là. On veut les garder avec nous le plus longtemps possible.
Ah ben oui, voilà. Et c'est un peu arbitraire, au fond, qu'on ait choisi d'arrêter ça alors que l'enfant avait 18 ans, non?
Mais totalement. Totalement. Ouais. Vraiment. Là, ça n'a pas de sens. Là. Mm-hmm. C'est pas parce qu'ils ont 18 ans là, que les besoins sont plus les mêmes. Les besoins sont les mêmes. Je dis toujours, moi, le matin des 18 ans de mon fils, tout était pareil. On s'est levé le matin et puis les besoins étaient les mêmes. Rien qui avait changé. La situation n'avait pas changé. Mm. Donc,
c'est ça. Caroline Bernacci, qui est aussi parent pour toujours, vous faites le même constat. C'est pas logique que le programme ne suive pas les enfants alors qu'ils atteignent ou qui dépassent la majorité.
Bien, ça sort de l'entendement. Parce que là, on demande aux parents, parce que l'enfant devient dans le monde adulte, là, selon les critères établis. Maintenant, nos enfants, en tout cas, dans le cas de mon enfant, ça reste un petit enfant. Il a peut-être 3 ans et demi d'âge mental, mm-hmm. dans un corps d'adulte, OK? Là, on lui impose tout ce qui a été fait pour l'adulte. Il devrait avoir le droit de décider pour lui, il devrait avoir tout là, les comptes bancaires, etc., etc. Mm. Comme si on appliquait des programmes pour personnes âgées en perte d'autonomie à des enfants qui sont nés avec un handicap ou qui sont devenus très lourdement handicapés dans la jeunesse. Okay? Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, à 18 ans, mon enfant est considéré comme un adulte, ce qu'il ne sera jamais. C'est juste son corps et son âge qui a l'air d'un adulte.
Oui.
Mais mon enfant est un petit enfant.
Puis c'est important d'amener la distinction, puis ça a un impact aussi sur... sur les loisirs, sur les activités qu'il pourra avoir comme personne. Puis, c'est pas non plus, comme vous le dites, là, une personne aînée en perte d'autonomie. Là. Donc, il y a une place à faire, il y a une place à expliquer. Là.
C'est deux choses qui se ressemblent au niveau de la vulnérabilité. Mm-hmm. Mais ça s'arrête là, parce que une personne aînée en perte d'autonomie, elle a fait sa vie, elle a développé un patrimoine, elle a créé des liens sociaux qui sont différents, elle a eu une carrière fort probablement, et donc elle a beaucoup de choses à gérer, dont il reste peut-être des parties cognitives qui sont très fonctionnelles, mais qu'elle a besoin d'une assistance, tandis que... un enfant comme le mien a besoin que depuis toujours que je prenne les décisions pour mm-hmm. tous les aspects de sa vie quotidienne.
Bien sûr.
Donc, ça n'a pas changé. À 18 ans, on me demande de faire ça bénévolement, mm-hmm. à mes frais, tandis qu'à côté...
Non, mais pas juste bénévolement, au profit de... Ben, d'une carrière, du temps un peu, puis aussi, vous êtes obligé de compenser avec pas assez de ressources pour suffire. Là.
Écoutez, j'ai regardé, là, selon, il nous envoie un feuillet, là, personnellement, là, comme parent, là, ben, comme personne, mm-hmm. qu'est-ce que je vais avoir comme régie des rentes quand je vais être à la retraite,
hein? Ouais.
Mais j'ai tellement pas de salaire pour avoir accumulé quelque chose que je vais être moi-même en pauvreté à 65 ans parce que je me suis occupée de mon enfant lourdement handicapé qui n'a pas coûté ce que ça coûterait s'il serait dans le système.
Oui, voilà. Oui, bien donc, c'est un peu bête de faire comme ça, mais le système fait une économie alors qu'il est chez vous et on ne veut pas quand même compenser avec ce qu'il y aurait besoin comme minimum pour que vous et lui soyez bien, là.
C'est tout à fait injuste. Mm-hmm. Ça dépasse l'idée de la logique.
Ouais.
C'est de la mauvaise volonté. Mm. C'est de la mauvaise volonté parce qu'on regarde pas cette... Écoutez, on est une famille de deux. Marie-France est une famille de trois, OK, mm-hmm. monoparentale. Et suite à ça, il y a des gens autour dessus, il y a des oncles, il y a des amis. On est coupé de tout parce qu'on n'a même pas les moyens d'intégrer la société comme telle. Premièrement, par l'accessibilité. Puis deuxièmement, on n'a plus d'argent.
Oui. Et donc, on entend l'injustice, l'iniquité. Même vous avez eu des frais supplémentaires à payer, Mme Bernacchi, pour faire reconnaître la situation de votre enfant. Non seulement vous manquez d'argent pour la subsistance puis les besoins de base, mais en plus, vous avez dû payer, comment, 3 000 $?
Oui, ça a coûté autour de 3 000 $ pour devenir tutrice légale de mon enfant.
Ah oui.
Oui, parce qu'à 18 ans, pour gérer son patrimoine, c'est-à-dire son chèque de bien-être social, les décisions au niveau de la santé, etc., etc., c'est soit que c'est le gouvernement qui devient curateur de mon enfant dans la curatelle publique, ou c'est soit moi, avec un conseil de tutelle, qui devient tutrice légale de mon enfant. Puis pour faire ça, bien, il a fallu faire un rapport psychosocial pour prouver que mon enfant ne pouvait pas prendre les décisions pour lui-même, quand on sait très bien qu'on venait de le prouver pour avoir droit à la mesure exceptionnelle pour personnes handicapées du même gouvernement. Ensuite de ça, ça a pris un notaire qui a monté tout le dossier, qui a bâti le conseil de tutelle avec les deux familles, même séparées, il faut faire affaire avec l'ex-conjoint et sa famille parce qu'il faut faire le bien commun pour l'enfant. Et présenter ça au juge, recevoir un jugement, puis changer tous les comptes pour que ce soit représenté, que je puisse prendre les décisions que mon fils n'a jamais pu prendre de toute façon.
Mais ça a l'air subtil, mais c'est quand même rajouter l'insulte à l'injure.
Absolument.
On s'entend là-dessus. Oui. On prend un instant musical et on revient juste pour voir qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on fait pour vous soutenir et c'est quoi les prochaines étapes pour les parents pour toujours que vous êtes.
Question de la semaine, les programmes de soutien aux parents d'enfants handicapés ont-ils des critères trop restreints?
Et avec Caroline Bernacchi et Marie-France Baudry, tous les deux de Parents pour toujours, on voit la suite, on se demande comment on va faire pour rétablir l'iniquité pour les parents d'enfants en situation de handicap, mais qui sont adultes et qui sont lourdement handicapés. Marie-France Baudry, où vous en êtes dans vos pourparlers comme fondatrice, comme représentante de parents pour toujours avec le gouvernement?
Là, il y a un comité de travail qui a été mis en place. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On avait rencontré là Madame la ministre Charlebois et le ministre Barrette là au mois de mai dernier, grâce au travail de Monsieur François Paradis qui a travaillé fort là-dessus.
Oui.
On les avait rencontrés brièvement et puis Madame Charlebois s'était engagée à nous rencontrer de nouveau. Et ce qu'elle a fait, on l'a rencontrée à Montréal le 10 novembre dernier. Et puis à partir de là, mais c'est ça, il y a un comité de travail qui a été mis en place et puis on a eu une conférence téléphonique avec eux, moi et puis mon collègue Martin Houle, qui travaille activement là, à Parents pour toujours avec moi. Et puis cette rencontre-là, elle était très constructive, vraiment, là, c'est très encourageant.
C'est positif pour vous?
Il y a du travail à faire, là.
C'est positif pour vous? Vous croyez qu'il y aura un programme qui va débloquer éventuellement, peut-être en pleine année électorale?
C'est ce que je crois, exactement. C'est ce que je crois. D'ici là, jusqu'au mois de mars, on va travailler en comité de travail avec le ministère. On va toucher plusieurs aspects qui touchent les familles. Évidemment, l'aspect financier, là, qui est le premier.
Oui.
Et ensuite, on va parler également de la conciliation travail-famille, de l'accès aux services et aussi des aspects juridiques. Donc, on va toucher tout ce qui touche les familles naturelles, mais évidemment, l'aspect financier est un très, très gros morceau.
Oui, voilà. Mais malgré tout, on n'aura pas le temps d'en parler davantage, mais Caroline Bernacchi, vous aimeriez aussi travailler à temps partiel. C'est pas simple. Ben, vous en avez besoin. Est-ce que vous croyez que cet aspect de la conciliation travail-famille va être pris en compte dans un futur programme?
Bien, j'espère, Marie-France travaille très fort, mais dans le fond, là, vous savez, nos enfants, ils peuvent tomber malades dans la nuit. Moi, j'ai encore la chance qu'elle est à l'école spécialisée pour jusqu'à 21 ans. Après ça, je vais tomber comme Marie-France, j'aurai plus rien. OK?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait la nuit que notre enfant il est malade et qu'on peut pas l'amener? Hey, c'est au moins 15 $ de l'heure net pour avoir de l'aide à domicile, OK?
Bien ça, ouais.
Donc, on va aller travailler pour rien dans notre petit job à temps partiel pour pouvoir la garder. Fait que dans le fond, c'est sûr que ça prend quelque chose pour nous aider à garder nos emplois si on en a un.
Bien sûr.
Pouvoir garder nos enfants à la maison sans les envoyer en institution parce qu'on doit aller travailler. Il faut que ça ait du sens, tout ça. Là.
Mm-hmm. Puis, donc, on est de plus en plus prochain aidant. Que ce soit pour vous ou pour d'autres, il faut absolument que le marché du travail et le gouvernement s'arrime. C'est urgent. Si on veut vous suivre, on sait qu'on peut aller sur votre page Facebook qui est Parents pour toujours, c'est bien ça,
oui,
Marie-France Baudry.
Ça.
Et donc, on continue de vous suivre. On espère qu'il y aura un programme qui va débloquer. Merci beaucoup aussi, Caroline Bernatchez.
Ça fait plaisir.
Bravo d'être des femmes extraordinaires, inspirantes. Puis j'espère qu'on va reconnaître tout le travail nécessaire que vous faites. C'est à vous qu'on devrait ériger des monuments, pas aux autres là, qui ont des grandes gueules. Enfin, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour tout. Et donc, on continue de répondre à vous tous à la maison, à la question. Faut penser à d'autres critères. Et voilà, on en reparle encore pour la prochaine demi-heure.
Vous écoutez Accès libre.
Question de la semaine, les programmes de soutien aux parents d'enfants handicapés ont-ils des critères trop restreints?
Évidemment, continue de répondre à la question sur canalem.vusezvoix.com. J'ai envie maintenant de vous faire entendre un livre qui a eu un véritable succès d'estime. Évidemment, c'est un roman, c'est-à-dire Nirlit, écrit par Juliana Léveillé-Trudel, publié aux éditions La Peuplade, mais c'est quelque chose comme une exploration ethnographique du Grand Nord. Et je vous assure, c'est admirable entente, mais avant, entendons ensemble la version audio produite par Vues et Voix de la quatrième de couverture.
Nirlit, Juliana Léveillé-Trudel. Une jeune femme du Sud qui, comme les oies, fait souvent le voyage jusqu'à Saluit, parle à Eva, son amie du Nord disparue, dont le corps est dans l'eau du fjord et l'esprit partout. Le Nord est dur. Il y a de l'amour violent entre les murs de ces maisons presque identiques. Et la missionnaire aventurière se demande comment on fait pour guérir son cœur. Elle s'active, s'occupe des enfants qui peuplent ses journées, donne une voix aux petites filles inuites et raconte aussi à Eva ce qu'il advient de son fils Elijah. Parce qu'il y a forcément une continuité, une descendance, après la passion, puis la mort. Juliana Léveillé-Trudel livre un récit d'amour et d'amitié beau et rude comme la toundra. Nirlit partage la beauté en forme de coup de poing dans le ventre qu'exhale le Nord. Née à Montréal en 1985, Juliana Léveillé-Trudel pratique l'écriture dramatique et a fondé le Théâtre de Brousse. Elle travaille dans le domaine de l'éducation au Nunavik depuis 2011. Nirlit est son premier roman.
Une rencontre nécessaire, je vous le dis. On va entendre ensemble, je rappelle, Nirlit, écrit par Juliana Léveillé-Trudel, d'abord édité à la Peuplade, maintenant proposé en version audio par Vues et Voix. On entend ensemble le prologue.
Chapitre 1. La route est longue jusqu'à chez toi, Eva. Saluit, 62e parallèle, bien au-delà de la limite des arbres. Saluit roulé en boule au pied des montagnes, Saluit le fjord au creux des reins, et, 16 kilomètres plus loin seulement, le grand détroit d'Hudson qui te conduira peut-être jusqu'à l'océan Arctique, qui sait. Il faut venir par les airs, comme les oies. Nirlit, je refais inlassablement le chemin du sud au nord, puis du nord au sud, chaque fois que l'été revient, chaque fois que l'été se termine. L'avion s'arrête d'abord à la Grande Rivière, 3 heures de vol au nord-ouest de Dorval, beauté rugueuse et saisissante lorsque le Dash 8 redescend sous les nuages pour survoler le gigantesque réservoir Robert Bourassa, des eaux sombres à l'infini, encadrées par des rangées serrées d'épinettes. Le minuscule aéroport de la Grande accueille la faune habituelle du Nord. Des géologues en mission pour le ministère des Ressources naturelles, des infirmières, des travailleurs sociaux. Moi. Je ne sais trop dans quelle catégorie me classer. Des inconnus qui ne se parleraient jamais en ville entament des conversations animées, rient aux éclats. Des Blancs. Khalunat. Les Inuits ne parlent pas. Pas à nous. Nous non plus. Les Blancs dans un coin, les Inuits dans l'autre. Les Blancs, c'est aussi les Noirs. Tous ceux qui ne sont pas Inuits deviennent Blancs à cette hauteur. Ça ferait sûrement rire Martin Luther King. Deuxième arrêt, Pouvirnituk, odeur de chair pourrie. Je rebaptise tous les films et toutes les chansons auxquelles je pense. Odeur de chair pourrie, mon amour. Il pleut des roses sur odeur de chair pourrie. Voir odeur de chair pourrie et mourir. Midnight in odeur de chair pourrie. Odeur de chair pourrie, odeur de chair pourrie. Pouvirnituk le vilain petit canard, Pouvirnituk le Bronx du Nord, Pouvirnituk les sourires entendus et les soupirs complices. POV. Rien d'une carte postale, c'est vrai. Rien à voir avec Kangiksuyak ou Saluit, les reines de beauté nordique. Pas de splendides montagnes ou de falaises vertigineuses, juste une plaine raboteuse brisée ici et là par une faible colline. Un nid de misère parfait pour nourrir une criminalité florissante et rafler année après année le titre de communauté la plus violente du Nunavik. Rien pour donner envie de s'attarder, et pourtant il le faut. Pouvirnituk est une fille pas jolie avec des yeux magnifiques qu'on découvre si on regarde attentivement son visage. Il faut connaître sa rivière qui serpente, superbe, dans la toundra avant de se jeter dans la baie d'Hudson, à l'extrémité ouest du village. La rencontre de la rivière et de l'océan. Le plus bel endroit sans doute à 10 kilomètres, mais il faut garder ses yeux fixés sur l'eau. Surtout ne pas jeter un regard de côté, sinon on tombe sur l'autre rivière, celle des déchets, La dompe municipale qui étale ses splendeurs de métal et de plastique comme pour concurrencer celle de la nature.
C'était Nirlit, lu par l'auteur Juliana Léveillé-Trudel. N'oubliez pas que c'est disponible à la collection du service de livres adaptés de la BANQ.
J'ai pas fini de faire la paix avec tout ce que je suis pas, ni avec tout ce que je suis pas encore. Des fois j'en oublie la joie d'être en vie, la solitude heureuse du capitaine la nuit. Kid qui regarde le monde, c'est encore plus beau que le monde tout seul. Mon kid qui regarde le monde, c'est encore plus beau que le monde tout seul. Le monde tout seul. Le cœur, personne n'est entré là. La dernière poupée russe ne s'ouvre pas. Le souffle d'un kid qui dort, le vent qui vire de bord, au milieu des jouets du salon, deux corps imparfaits font l'amour. Dans un carré de soleil d'après-midi.
Question de la semaine. Les programmes de soutien aux parents d'enfants handicapés ont-ils des critères trop restreints?
Et donc, continuez de répondre à la question. Vous savez, les programmes, il y en a plusieurs, mais on les cible de plus en plus et il y a des gens qui tombent dans les trous des critères. Alors, continuez d'échanger si c'est votre cas. Continuez de parler de votre situation sur canalm.vuesetvoix.com ou sur Facebook. Mais maintenant qu'on a parlé des choses, disons, moins sympathiques, avec elle, vous le savez, on a l'habitude d'aller au loin. Mais cette fois, on va dans l'hiver Aube Savard, chroniqueuse Destination, est avec nous. Bonjour, Aube.
Bonjour.
Content qu'on se promène un peu dans l'hiver parce que parfois ça nous rebute, c'est synonyme de « on ne peut pas sortir » ou « c'est désagréable », mais il y a plein de choses à faire l'hiver au Québec.
Ben oui, et c'est étonnant quand même.
Oui, et qui est accessible, rappelons-le.
Oui, oui, bien entendu.
OK. Bon, alors, moi j'aurais envie là, de commençons, tiens, par du traîneau à chien qui fait la renommée jusqu'en France.
Oui, hein? Exactement. Kinadapt, qui est située dans la Naudière, près de Rawdon, c'est une organisation qui offre du traîneau à chien adapté.
Mm-hmm.
Donc, en fonction des besoins de la personne, le traîneau est fait en conséquence pour pouvoir accueillir cette personne-là. Et donc, ça permet justement les belles balades en forêt qui sont quand même... très rafraîchissante.
Pour le moins.
Exact.
Il y a un peu d'adrénaline aussi parce que ça va vite. Les chiens ont tendance à tirer fort, mais il reste que c'est sécuritaire et ça s'adapte. Qu'on ait une déficience motrice, des difficultés liées à l'agilité, c'est pas grave. On peut s'installer dans un traîneau à chien. Donc, rappelez-nous, c'est à Rawdon, c'est ça?
Oui, exactement.
Et comment on a plus d'informations si on planifie ça là, quelque part en décembre, janvier, quand il y aura de la neige?
Donc, kinadapt.com, donc K-I-N-A-D-A-P-T.com. On peut toujours aussi les contacter par téléphone au 450-834-4441.
Génial. D'autre part, on fait un tour maintenant davantage dans les Laurentides pour faire un sport qui est assez prisé au Québec. Hein? C'est assez fréquent qu'on aime ça. Et donc, c'est...
la motoneige!
Ah non! Ben la motoneige adaptée!
Ben oui!
Voilà, voilà.
Ben oui!
Alors, racontez-nous comment ça se passe.
En fait, il y a 10 motoneiges adaptées pour les passagers chez Arctic Aventure et 3 motoneiges adaptées pour ceux qui souhaitent conduire eux-mêmes la motoneige. Et donc, encore une fois, il y a des sièges qui sont fabriqués en conséquence pour des personnes qui ont des difficultés à bien se maintenir droit, donc pour éviter que la personne culbute sur le côté.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment très sécuritaire, c'est très bien pensé. Sur le site web, il y a des petites vidéos où justement...
Donc, on peut voir comment ça se passe en réel.
Exactement. Mm-hmm. Et ça rassure généralement les gens parce qu'on se demande toujours de quelle manière est-ce que c'est adapté. Et je trouve que c'est vraiment... extrêmement bien fait. Ça vaut vraiment la peine. Il y a plusieurs forfaits qui combinent même motoneige et traîneau à chien.
Ah bon!
Donc, ça peut être...
on peut choisir une des deux destinations puis faire à la fois traîneau à chien et motoneige.
Et voilà!
Ah, comme c'est convenient, disent les Anglais. Le ski assis n'est pas en reste!
Exactement! Et maintenant, c'est dans l'Estrie, à Mansonville, dans au mont Holshead. C'est sans doute un des monts qui offre le plus de possibilités en termes de ski assis parce qu'ils ont une 30aine de skis adaptés.
Ah oui!
Ils ont des monoskis, donc c'est-à-dire le siège qui est monté sur un seul ski.
Mm-hmm.
Ensuite, il y a le dual ski, qui est un siège monté sur deux skis, et le tandem ski, qui est exactement comme le dual ski, mais qui est fait pour être conduit par une autre personne qui est située derrière. Donc, pour des personnes qui ont de la difficulté avec une difficulté motrice au bras, ben là, il n'y a aucun souci.
Ben, comme c'est votre cas, quand
même. Exactement.
Donc, vous préférez ce type de ski assis-là?
Oui, oui, oui.
Vous ne l'avez pas encore essayé?
Non, mais bon, sans que ça me tente.
OK. Alors, elle se donne le goût, elle me donne le goût, tout va bien, mais ça se peut qu'on ait un peu moins envie d'être actif pendant l'hiver. C'est possible. Et heureusement, il existe des chalets accessibles au Savard, je m'excuse.
Oui, en fait, il y a d'abord les chalets du lac Grenier qui sont en lien avec Arctic Aventure, là, dont on vient de parler.
OK, un combo motoneige, traîneau à chien et chalet peut-être?
Oui, c'est ça exactement. Ça permet de combiner tout ça, ce qui est quand même assez merveilleux.
Mm-hmm.
Il y a 2 chalets sur 7 qui sont accessibles et qui possèdent des salles de bain adaptées.
Ah, ça c'est important.
Oui, c'est crucial.
Ouais. Non, mais c'est parce que parfois, il arrive qu'il y a une entrée de plein pied, mais là, la salle de bain, le comptoir est hyper haut, la douche n'est pas prévue pour qu'on y entre.
Enfin, il n'y a pas de barre d'appui.
Il n'y a pas de barre d'appui.
Donc, ça fait une très, très grosse différence.
Bon, très bien. Et il y a même... En fait, celui-là est un peu plus populaire. Il y a d'autres chalets aussi. En fait, pas dans Lanaudière, mais on retourne dans les Laurentides.
En Estrie, en fait.
En Estrie, je m'excuse, ben oui.
Oui. Près du mont Offord, il y a les chalets U, qui sont mais vraiment magnifiques. En fait, sincèrement, j'aurais déjà loué ce chalet-là dans le passé si j'avais pas eu le sentiment de prendre la place de quelqu'un qui en a réellement besoin.
Ouais.
Moi, j'ai pas besoin de toutes les adaptations, de salle de bain, etc. Donc, mais c'est magnifique.
Ah oui.
Ah,
mais
c'est
moins entrée de gamme, par exemple. C'est un peu plus cher,
Ça. C'est quand même des beaux chalets de style contemporain, mais c'est chaleureux, quand même avec du bois blond, avec un bel ameublement qui est dégagé. C'est vraiment magnifique. Là.
Okay.
C'est superbe.
Donc, dans les deux cas, on peut aussi aller voir ça ou entendre avec notre synthèse vocale. Donc, c'est quoi les sites web pour les chalets du Lac-Grenier?
Lac-Grenier.com, assez simple. Et pour Chalet U, aussi simple, chaletu.com.
Ah, parfois, c'est le fun, la simplicité.
Exactement.
Mais je pense à ça, on en oublie un. Il y a aussi dans les Laurentides, cette fois-ci, c'est pour ça, là, parce que j'avais en tête l'Estrie, mais dans les Laurentides, il y a aussi un endroit où on peut aller.
Oui, c'est pas un chalet.
Ah, c'est pas un chalet, c'est ça.
C'est pas un chalet, par contre. C'est un gîte, le gîte Vita Bella, qui a d'ailleurs récemment reçu le prix Excellence Tourisme dans la catégorie accessibilité. Donc, je crois qu'il y a 3 chambres, mais je suis pas tout à fait certaine.
On va aller vérifier.
Mais oui, c'est ça. Donc, vitabella.ca.
Donc, tout simple encore une fois. Alors, pour toutes ces idées, mais même pour plus encore, il y a moyen de vous retrouver Aube Savard, qui est non seulement chroniqueuse de destination, mais aussi conférencière à Kéroule, puis communicatrice de manière générale. Donc, où est-ce qu'on vous retrouve, Aube Savard, pour connaître un peu plus sur vos voyages puis ces propositions-là?
voyageramobilitéreduite.com.
Ah, tout simplement, voyageramobilitéreduite.com. Merci, Aube Savard. C'est toujours un plaisir.
Ah, pour moi aussi.
Il y a même du soleil pendant l'hiver.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles noires sur ton chemin. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qu'était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien, tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une en rapportant le duvet qu'était ton lit un beau matin. Et ce n'est que
Question de la semaine, les programmes de soutien aux parents d'enfants handicapés ont-ils des critères trop restreints?
Et donc, continuez d'interagir avec nous parce que souvent, au gouvernement, on fait des programmes là, pour quelques groupes. C'est très ciblé, mais il y a plein de gens qui n'entrent pas dans ces cases et qui ont pourtant grandement besoin de soutien. Vous avez commencé à interagir un peu sur Facebook. J'ai aussi une réponse pour l'instant sur notre page canalem.vusezvoix.com. C'est Lynn Dion qui... On le comprend, on le sent, a beaucoup de colère face à cette situation des programmes. Alors, je vous en lis un extrait. Les programmes? Quels programmes? Lorsque tu habites en région, Mira, parfait, mon fils et moi avons fait partie du programme expérimental, mais les résultats n'ont pas été concluants pour nous. Programme de répit? Laissez-moi rire. Avec ce que nous recevons et le taux horaire que l'on doit payer pour avoir une personne qualifiée, on ne sort pas loin, sans compter que nos moyens ne sont pas importants et ne permettent pas d'avoir ce luxe. Chèque emploi-service, c'est bien, ça aide nos adultes ou nos enfants adultes, mais nous, nous demeurons isolés pour avoir choisi de garder nos enfants adultes près de nous. Quand j'étais seule avec mon fils, le système m'avait considéré inapte au travail et m'octroyait un chèque de dernier recours. J'ai rencontré un homme, etc. Bon, il y a eu situations maritales qui ont changé, là, ça a compliqué les choses. Bref, vous voyez, les dédales dans lesquels doivent se trouver les parents d'enfants handicapés sont très importants. Donc, c'est pour ça qu'on espère là, que les démarches de parents pour toujours vont donner lieu à un programme là, qu'on espère apparaître comme par hasard dans l'année électorale. Enfin bref, continuez de raconter vos histoires, de parler de ce qui manque dans les services, ils sont si importants. Vous vous rappelez, toujours possible sur Facebook de le faire, donc repérez Canal M, la radio de Vues et Voix, ou encore sur notre site web. L'émission aurait été impossible sans une belle brochette d'intervenants et intervenantes, des gens très dédiés, très importants. Je pense à Céline Métivier qui a mis un peu de lumière sur l'inclusion dans le milieu communautaire autonome. Vous allez repérer sur la page les informations de l'RQAK, l'organisme qui s'occupe, qui regroupe les organismes communautaires autonomes, mais aussi Nicolas Saint-Pierre et la Fondation MIRA. Vous savez, c'est indispensable, MIRA, sans parler de Sonia Boucher qui est avec nous, notre chroniqueuse destination aussi, Aube Savard. On continue d'écouter Canal M hein, pour s'informer sur les droits, etc. Et n'oubliez pas que cette émission est possible grâce à une recherchiste fabuleuse, Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagnan aux communications et Maurice Bolduc à la mise en onde. C'est Benoît Racette qui est avec vous. On continue ensemble de se faire un accès libre.